écoutez Fréquence Mistral et c'est l'heure de nos rediffusions des temps forts de l'année 2015 avec Alexia. Bonjour Alexia.
Bonjour Emeline. Vous le savez, nous rediffusons des temps forts de nos programmes de 2015 toute cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons choisi une émission marquante, mais que nous aurions aimé ne pas réaliser. Suite aux attentats de janvier, et sans imaginer qu'en novembre, nous allions aussi connaître l'horreur, Marco Caccavo, qui anime Entracte sur notre antenne, a évoqué la liberté d'expression et la citoyenneté bafouée et meurtrée par les Kouachi et Koulibaly. De l'émotion certes, mais aussi des analyses et commentaires des invités de Marco. Une émission que nous vous proposons en deux parties aujourd'hui et demain. Le samedi 24 janvier 2015, Entracte revenait sur les attentats du début du mois.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Fréquence Mistral. Il est 11h et c'est une émission spéciale qui s'apprête à se tenir. C'est le quatrième numéro d'Entracte avec Marco Caccavo.
Ils sont là. Les deux. Baissez-vous.
Il est vous encore?
Mais non, Edouard, tu peux.
Les coups d'armes à feu que l'on vient d'écouter sont ceux tirés par les frères Kouachi, des terroristes qui se disaient appartenant à les milices de l'État islamique, État qui sème actuellement la terreur entre la Syrie et l'Irak. Et ces coups de feu et ses cris resteront à jamais dans la mémoire des Français. À ces coups et au visage du troisième terroriste, c'est-à-dire Hamedi Koulibaly, on ira toujours associer trois jours d'horreur qui ont laissé sur le bord 17 morts, 17 victimes de la folie humaine et 17 êtres humains qui on peut imaginer peureux et impuissants comme chaque Français qui s'est ainsi découvert être une cible facile, extrêmement facile du terrorisme qui peut frapper désormais n'importe qui et n'importe où. Comme vous avez dû le comprendre, on parle des terribles événements survenus du 7 janvier 2015, c'est-à-dire la date du carnage à la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, au 9 janvier, jour de la double intervention gendarmerie-police qui a mis fin à ces cauchemars qui a bouleversé nos esprits, dans les plus profonds, en faisant naître en nous la plus dangereuse des peurs, c'est-à-dire celle qui fait douter de l'autre et qui embranle ainsi les fondements de chaque État démocratique. Pendant ces trois jours, la violence brute est venue frapper vigoureusement à notre porte. Elle est venue frapper à coups d'armes à feu. La bête du fanatisme a visé, cette fois, l'Europe, notre pays. Les pays où on croyait que, par rapport à d'autres pays, les choses n'allaient pas si mal que ça. Et au final, ça va, on est en France quand même. Comme si après la Révolution française, les 1848, les guerres mondiales et celles d'Algérie, on était à jamais à l'écart de toute violence. Jusqu'à la veille, le sang appartenait à notre passé, à notre mémoire. Notre présent était autre chose. Les massacres quotidiens en Afrique ou au Moyen-Orient étaient loin. Parfois, on les pensait, buvant un verre au bar. Cette prise d'otage, c'est vrai, a tourné mal. Mais bon, au moins ici, on est chez nous, on est en sûreté. Il n'y a rien qui puisse nous arriver. On en parlait encore un peu devant la télé et après, c'est bon. On éteint la télé. Une nouvelle journée de travail commence. Heureusement, on vit en Europe. Mais c'est 7 janvier, tout a changé. Cela ne s'est passé plus à la télé. Cette fois, c'était du vrai. Le sang qui d'habitude coule loin de nous coulait cette fois sur le sol français. Et ce sang pouvait être celui de n'importe quel Français, dans n'importe quelle ville. Ce sang pouvait être le mien aussi. La bête, la violence des frères Kouachi, s'est dirigée d'abord vers un journal, un journal satirique, fils, comme tous d'ailleurs, de la loi française sur la liberté de la presse et de la liberté d'expression, qui date du 29 juillet 1881. Cette loi, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 1789. Et le 7 janvier, c'est la liberté de presse et d'expression à être frappée. Ce journal était coupable d'avoir publié et continué à publier des caricatures sur le prophète Mahomet. Et pour vengeance, il fallait le tuer. Le même jour, les mêmes terroristes assassinent deux policiers, peureux et impuissants, comme les dramatiques images de celui qui implorait pitié l'ont montré. Et un autre pilier de la République, celui de l'État qui doit assurer par moyen de la force publique la sûreté du citoyen, était secoué. Puis, le lendemain, pendant que la France s'interrogeait et rentrait des premiers rassemblements spontanés, une autre policière est abattue par un troisième terroriste, Coulibaly, qui sera après le protagoniste de la sanglante prise d'otage, qui fera encore 4 victimes. Cette fois, c'est les Juifs, c'est les Français du culte juif, un des tant de cultes tolérés dans la France laïque, qui, en 1905, a prévu la séparation entre Église et État. Cette fois, c'était justement les principes de la tolérance et de l'intégration à être visés. Un énième pilier de la République avait été ébranlé. La France aussi s'est retrouvée blessée sur tous les fronts. Ces piliers désormais séculaires semblaient craquer, mais le peuple de France a réagi avec un sursaut d'orgueil républicain. Des millions de Français ont défilé sous un slogan qui rapidement a fait le tour du monde. « Je suis Charlie ». Et la France s'est rassemblée autour de ses symboles et de ses valeurs, comme le drapeau, la tolérance, la laïcité, la Marseillaise. Voltaire, le chevalier de la Barre, Dreyfus, Marat, les personnages qui ont fait la France d'aujourd'hui ont défilé à notre côté, contre les fanatismes, contre les passés, pour le monde de demain. Et comme face à toute tragédie de cette ampleur, les hommes se tiennent plus fort par la main, ils crient encore plus fort leurs droits, et l'histoire accélère sa marche vers le seul monde possible, celui où on est tous Charlie, musulmans, chrétiens, juifs, athées, noirs, gitans, arméniens. Parce que le meilleur gilet pare-balles contre la haine et la folie est celui qui a l'épaisseur incassable du respect de l'autre. Bienvenue à cette émission spéciale d'Entracte et bienvenue de la part de Marco Cacabo.
Bonjour encore une fois à Entracte Émission. Cette fois, comme vous avez dû comprendre pendant l'émission, l'introduction, on va parler des événements qui sont survenus le 7 janvier 2015. Et aujourd'hui, je suis très ravi de pouvoir partager ces petits moments de réflexion. Il y a un plateau très riche On a occasion d'en discuter, d'échanger nos points de vue, que c'est un peu la base, c'est les dialogues, c'est la base pour aller vers le monde de demain, qu'il y a des petits attentats, petits grands attentats terroristes, qu'ils ne peuvent pas empêcher, ils ne peuvent pas ralentir la marche de l'histoire, c'est-à-dire dans un monde partagé, dans un monde globalisé, où il y a aussi la globalisation des droits. Et là, je suis ravi de pouvoir partager mon micro avec Monsieur Boustany Rafat, directeur de la mosquée de Manosk.
Bonjour.
Bonjour. En tant que représentant de la communauté musulmane à Manosk, et il y a aussi Gilbert Maris, curé du pays de Manosk.
Bonjour. Bonjour.
Jamel Nassar, philosophe.
Bonjour.
Isabelle Coffé, représentante d'Amnesty International.
Bonjour.
Et pour finir avec François Malabave, journaliste et directeur de Fréquences Mistral.
Bonjour Marco, bonjour à tous, merci de m'avoir invité.
Merci à vous pour avoir répondu présent à cette invitation. Le premier thème que je voudrais aborder, ça sort d'une question personnelle. Cette que moi je me pose, et je pense que pas mal de Français, ils se posent également. C'est-à-dire que la culpabilité de Charlie Hebdo, c'était celle d'avoir publié et continué à publier des vignettes satiriques. Donc je me pose la question, jusqu'où on peut pousser la liberté d'expression, la liberté d'écriture, la liberté, et s'il y a, face à des convictions religieuses, des limites qu'il ne faut pas franchir. Bien sûr, tout en sachant qu'il y a une grosse différence entre l'indignation personnelle, ça c'est tout à fait compréhensible, on a le droit, et le fait d'embrasser une arme à feu. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Rafat?
Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. C'est très, compte tenu des personnes présentes, ça va me sembler extrêmement enrichissant. Faut commencer d'abord par faire une différence fondamentale, non seulement dans l'esprit des musulmans, que je représente localement, mais je pense que c'est sur le plan national, voire même humain qu'il faut l'affirmer. Il n'y a aucun concept qui justifie des crimes. Ça, ce sont du pur crime. Commis par musulmans ou non musulmans, ce sont des crimes. Ensuite, il n'y a pas un meilleur moyen de régler le problème, c'est de mettre les vraies définitions aux mots. Les mots ont un sens. Et malheureusement, beaucoup de concepts dans notre, et on le voit tous les jours, les définitions ont été galvaudées. Parlons par exemple de la liberté d'expression. J'aurais personnellement préféré parler de la liberté d'opinion. L'État garantit la liberté, l'égalité, bien entendu, la liberté dont la liberté d'opinion. Et ensuite, vous avez une limite très ténue. La nuance est très fine entre la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Pour faire vite, lorsqu'un journaliste présente quelque chose, il y a trois mécanismes qui sont sous-tendus par cette présentation. Soit il va relater un événement. Il va faire un reportage sur un accident de la route. Il va rapporter comment cet accident s'est passé. Ça, c'est factuel. Donc, il a une présentation objective d'un événement déroulé. Deuxième mécanisme, il donne une analyse à une situation actuelle. Par exemple, comment l'économie actuelle mondiale fonctionne. Il fait une analyse économique, il peut faire une analyse politique, une analyse voire même spirituelle. Et là, en plus de la présentation objective, il donne une analyse un petit peu subjective, quand bien même elle est sous-tendue par des arguments scientifiques. Donc il y a un petit élément de subjectivité dans sa présentation. Troisième mécanisme, il exprime une opinion personnelle, qu'elle soit scientifique, économique, religieuse, spirituelle, sociologique. Et là, nous ne sommes plus du tout dans l'objectivité. Il exprime un sentiment qu'il donne aux médias. Ça, ce sont en gros les trois mécanismes. Un exemple tout bête. Lorsque mon voisin vient tous les jours me dire « Je n'aime pas vos enfants parce qu'ils sont mal polis », il a le droit de le penser. il a le droit de me le dire à moi. Mais lorsqu'au bout de 15 jours, il vient sur mon portail et il affiche « Je n'aime pas les enfants qui habitent dans cette ville-là parce qu'ils sont impolis », c'est divulgué au public. Si je vous dis ça, c'est simplement pour qu'on puisse très bien percevoir la différence entre la liberté d'opinion dont on a le droit d'avoir, qu'on a le droit d'avoir, et la liberté d'expression qui peut déranger quelqu'un d'autre. Si nous sommes en train, si on veut vraiment régler le problème, on ne peut le faire que par la fraternité. Bien entendu, il y a des mécanismes d'enseignement que l'école doit avoir, mais l'État ne peut pas faire ça. L'État vous garantit la liberté et l'égalité, mais ce n'est pas elle qui vous, c'est pas l'État qui vous donne la fraternité. La fraternité, c'est un sentiment personnel. Moi, j'ai tout à fait le droit de marcher dans la rue sans dire bonjour à personne. Mes voisins, je peux très bien les renier. Mais si je veux qu'on soit dans une société confraternelle, ce sont ces éléments-là qui sont importants. Alors évidemment, on a le droit de tout faire. Mais à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que notre société ne soit pas confraternelle. Or, la grande manifestation qui a eu lieu à Paris, partout en France, avec 4 millions de personnes, c'est un sentiment de fraternité qui a soutenu ça. Ce n'est pas l'État qui a obligé. C'est parce que les gens se sont sentis solidaires et fraternels avec les victimes. Mais ça, il faut le divulguer, il faut le dire, il faut que notre sentiment ne soit pas simplement un sentiment de liberté, mais un sentiment de fraternité vis-à-vis des autres. Et je ne suis pas du tout persuadé, bien que je sois absolument pour la liberté de la presse et de l'expression, mais je ne suis pas du tout sûr que cela ne donne pas du grain à moudre aux extrémistes. Il faut être très vigilant pour ça.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez des caricatures du prophète qui a apparu dans les journaux ?
Alors, les caricatures. Alors, vous avez des gens qui sont entre guillemets qui prétendent interpréter la religion, mais c'est une mauvaise interprétation. Ça n'a jamais été interdit. Il n'y a pas d'interdiction de l'imagerie en islam. Il n'y a pas d'interdiction, si vous voulez. Après, les caricatures. Où se situe la caricature satirique acceptable et où est-ce qu'elle peut blesser les autres? Moi, on est entre nous autour d'une table en train de discuter, tout à fait. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens que ça peut choquer. C'est tout simplement ça.
Oui, mais le problème, c'est de voir exactement, de comprendre quelle est la limite.
On ne sait pas.
Parce que chacun, ça peut être touché à sa façon.
Moi, je mets au défi quiconque de montrer la limite de ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à fixer et il n'y a pas de limite à dépasser. On ne peut pas le savoir, ça. Chacun considère, pour lui, en son propre conscience, que la limite est atteinte ou pas atteinte. Mais ça ne justifie absolument pas ce qui s'est passé.
Parce qu'en fait, après la publication du numéro du survivant de Charlie Hebdo, il y a eu pas mal de manifestations. Oui. Il y a eu au Pakistan, il y a eu en Afghanistan. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des
Moi, je pense que ça ne porte aucune atteinte au prophète. Aucune atteinte. Ça, c'est, après, nous sommes dans le sentimental. Ce sont des gens qui... d'ailleurs, on ne sait pas comment ils réfléchissent. Quoi. Trouver. Moi, je l'ai regardé. L'image, je n'ai pas acheté Charlie Hebdo, mais j'ai regardé la caricature. Je ne vois aucune offense.
Et comment vous positionnez par rapport aux États? Il y a des déclarations officielles d'États. Par exemple, il y a l'Iran,
oui,
qui l'a condamné cette caricature. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette condamnation d'État? Parce que chacun il est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr. Mais quand c'est l'État qui condamne des dessins, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais l'État est formé de personnes qui ont leurs convictions, il ne faut pas l'oublier. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard lors de la table ronde. Il n'y a aucun État au monde qui puisse se prévaloir de concepts islamiques. Aucun. Il n'y a aucun État. Ceux qui disent ça, c'est entre guillemets de la poudre aux yeux pour leur population. C'est à consommation interne.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Boustany. Là, je voudrais poser plus ou moins la même question à Père Margis. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai j'ai lu dans les journaux que le pape, elle avait dit que si on provoque, il faut s'attendre à une réaction. Il avait dit que si on parle mal de ma mère, il faut, c'est normal que je dois m'attendre à une réaction. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration du pape ?
Je trouve que c'est vraiment du bon sens. Et je voudrais justement, tout en disant que je rejoins en tout ce que Rafat vient de dire, que justement la liberté d'expression, qui était donc effectivement particulièrement visée par ces horreurs absolument, absolument condamnables et à condamner, je voudrais faire allusion au fait que justement dans toutes les réactions, etc., qu'on a énormément de fois entendu les valeurs de la République. Dieu sait si je suis d'accord avec ces valeurs de la République. Et ils sont, je crois, résumés dans les trois mots qui se trouvent sur les frontons de toutes les mairies. Mais je crois que ces valeurs n'ont de valeur que dans la mesure où justement elles sont cohérentes. Liberté sans fraternité, pour moi, ce n'est plus une liberté. C'est un individualisme qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui est pour moi l'humanité qu'on cherche à construire. Liberté, égalité, il y a foultitude de lois en France pour non seulement les définir, les encadrer, sanctionner ce qui va à l'encontre, etc. Malheureusement aussi avec un tas de lois qui se contredisent, non seulement dans la forme mais jusque dans le fond. Bref, ça c'est toute la complexité de la législation. À ma connaissance, il n'y a aucune loi qui ni définit, ni encadre, ni promeut la fraternité. Je le comprends parce qu'effectivement, je crois que Rafat a tout à fait raison, ça ne peut qu'être à partir de ce qui est le propre pour moi de l'humain et de la dignité humaine, c'est qu'on devienne toujours plus responsable. Et donc pour moi, liberté d'expression, ça ne dispense pas de la responsabilité. Tout acte que je pose, être un acte humain, ça veut dire que j'assume la responsabilité des conséquences. Et puisqu'il s'agit justement dans le métier des journalistes de la communication, ben si on communique, ça veut dire qu'on s'adresse bien à quelqu'un. Si on ne regarde pas en face et les yeux dans les yeux ceux à qui on s'adresse, quel est le degré d'humanité dans l'histoire ? Quel est le degré de la responsabilité dans l'histoire ? Si en plus, avec tous nos moyens qui ont tant de bons, de la mondialisation, de la communication, quel sens de responsabilité doit nous habiter pour savoir que chaque parole que je divulgue dans le monde, que j'ai à assumer les responsabilités de ce que cela provoque ? À qui je m'adresse, comment je m'adresse. Et à ce niveau-là, je tiens quand même aussi à souligner que moi j'ai été terriblement peiné, même si je comprends, ça fait partie maintenant de notre manière de faire, que pendant plus de 3 jours, ça a été du non-stop, en boucle, sur X chaînes et toutes les radios que j'ai pu entendre. J'ai pas tout vu, hein, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on a provoqué ? Une psychose de peur, d'amalgame, de généralisation. Quand on communique, on est responsable de ce qu'on provoque, de ce qu'on suscite, de ce qu'on transmet. Je voudrais rajouter que quand on crée, on contribue à créer une psychose de peur. On contribue à provoquer, à susciter exactement les mêmes effets qu'on condamne en condamnant le fanatisme. Le propre du fanatisme, c'est justement qu'on ne réfléchit plus, qu'on devient des machines. Mais la peur, elle a exactement le même fruit. au lieu de prendre de la hauteur pour pouvoir effectivement penser, réfléchir, la peur, elle devient viscérale et empêche de réfléchir. Moi, je me dis, liberté d'expression, c'est pour nourrir une réflexion, pour faire grandir une capacité de responsabilité. Donc, à ce niveau-là, jusqu'où on peut aller ? Je sais bien qu'on ne peut pas mettre ça dans les lois, mais ça ne peut être que le fruit d'un sens de l'humain, d'un sens de relation et d'un sens de responsabilité. Et donc, à ce niveau-là, j'ai effectivement très regretté que justement le nouveau numéro de Charlie Hebdo, au lieu justement de tenir compte de ses conséquences, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus libre de s'exprimer, mais je deviens libre dans la mesure où je tiens compte de l'autre. Tout à l'heure, Arafat faisait des allusions à ses voisins. Dans un couple, le propre justement d'un respect de l'autre, d'une tolérance de l'autre, d'un amour de l'autre, ben que je tienne compte de ce qui pour l'autre aide à réfléchir au bon niveau, même si ça peut à certains moments passer par de la provocation. Notre pape y provoque aussi. Mais je pense d'une manière qui suscite des réactions, mais qui est fait à partir de, il veut effectivement, si je peux faire allusion à ce qui est, puisque nous sommes des représentants, entre guillemets, de la foi de différentes religions, mais Jésus n'a pas arrêté de provoquer. Qu'est-ce qu'il l'a payé ? Je suis bien d'accord. Mais pour ce qu'on en sait, sa manière de provoquer, c'était effectivement de pointer là où l'humanité était en rade, où l'humanité n'était pas respectée, où des idées, où des formes, des structures, des lois devenaient des carcans et devenaient de la tyrannie sans ouverture et sans espace pour réfléchir. Voilà, peut-être que j'ai déjà dépassé le temps.
Non, je me posais une question par rapport à ce que vous y disiez tout à l'heure. Vous, les deux représentants du monde religieux, on peut dire, ils citent les conséquences qu'un acte il peut avoir. Mais moi, je pense que là, on parle d'un journal satirique. Et le but, c'est exactement celui de provoquer. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire ? On devrait faire ? On devrait interdire des journaux provocateurs et... d'après vous,
non, parce qu'on peut avoir peur interdire, ça serait certainement pas la bonne méthode, mais inviter à plus de responsabilité, ça oui. Et ça c'est à toute la presse, dans la mesure justement où c'est quelque chose qu'on met sur la place publique, on fait partie des gens effectivement qu'on considère comme des citoyens responsables. Inviter à plus de responsabilité, à plus de tolérance, à plus de respect. Ça, on n'arrête pas de le faire. Pourquoi pas aussi dans ce cas-là ? Après, effectivement, où s'arrête l'humour et ça devient satirique ? Ça, c'est sûr que ça passera toujours par blanc-noir, ça n'existe pas. Donc, et que ça se discute. Mais qu'on reconnaisse au moins qu'on peut comprendre que ça a quelque chose qui a fait du mal. Quand Macron provoque, ben il va s'excuser. Je trouve que c'est un acte très humain, très responsable.
Est-ce que vous pensez que charger les journalistes d'un acte de responsabilité face aux religions, ça peut être aussi aller contre les principes de laïcité qu'il y a en France ?
Contre ?
Si charger, je disais, les journalistes d'une responsabilité face aux religions, c'est-à-dire charger le journaliste des conséquences qu'un article, un dessin ou quelque chose peut faire chez les croyants. Est-ce que ça, d'après vous, ça va un peu contre la laïcité, l'état laïque ?
À mon sens, non. dans la mesure où le propre de la laïcité, c'est justement de permettre le vivre ensemble, sans que l'un ou l'autre s'impose à l'autre. Donc la vraie laïcité pour moi est justement l'espace de cette fraternité, l'espace de la tolérance, l'espace de chacun, mais dans une dynamique du vivre ensemble. Donc pour moi, c'est la laïcité par excellence, qu'on travaille tous, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos spiritualités, quelles que soient nos convictions, qu'on soit devant un projet commun qui est justement construire la paix. Et la tolérance et le respect, c'est le seuil minimal, d'ailleurs, qui est le seuil minimal de la justice.
Merci, Margis. Et à propos de la responsabilité du journaliste, quand il écrit, quand il efface ses auditeurs, ses lecteurs, est-ce que vous pensez, monsieur François Malabab, quelle est la responsabilité du journaliste? Il a le droit de tout faire en sachant que les limites, c'est celui marqué par la loi, ou il doit se poser aussi des questions au niveau professionnel qui vont au-delà de la loi?
Il y a beaucoup de choses, Marco, dans cette question, mais également dans les interventions tout à fait honorables de Rafat et Gilbert, que je salue. Je voudrais revenir sur, avant de répondre à cette question, sur une intervention de Rafat à propos de l'objectivité, de la subjectivité de notre métier. Si je veux être objectif, je vais m'en tenir au fait, rien qu'au fait, je vous dirai le 7 janvier, 14 morts à Paris. Ça, ce sont les faits. C'est court, non? C'est court. Pourquoi ils sont morts? Qui est mort? Qui a fait cet acte? Donc le journaliste est obligé d'amener des éléments d'explication, des éléments de compréhension. Donc forcément, on n'est pas confronté à un dilemme entre la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Évidemment, comme chacun, on a nos propres opinions, mais c'est un métier qu'on exerce. Donc effectivement, avec des responsabilités, ce que disait Gilbert, on peut pas écrire n'importe quoi, faire n'importe quoi, mais en même temps, si on lit nos articles, si on écoute nos reportages, si on regarde nos reportages, c'est parce qu'il y a une expression professionnelle, c'est parce qu'il y a une lecture personnelle, une interprétation, ça s'appelle l'expression, et donc le droit à la liberté d'expression. Après, c'est vrai qu'il faut arriver à tenir compte du milieu extérieur, c'est-à-dire qu'un journaliste iranien n'a pas forcément la même approche qu'un journaliste américain et encore moins qu'un journaliste français. Ce sont des cultures, ce sont des nations différentes avec des approches. Si je vous dis Voltaire, Zola, Hugo, ça dit quelque chose. On a sorti d'ailleurs leur nom de l'oubli pendant cette période. La loi de 81, Marco en parlait à l'instant, Théophraste Renaudot, Albert Londres, enfin tout cet héritage de la presse française qui est tout à son honneur et qui s'est retrouvé confronté à un cataclysme. On a débarqué avec des kalachnikovs dans une rédaction. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce cataclysme? Ça n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. J'ai été, moi, très choqué, vous vous en doutez, très peiné, très triste et très en colère. C'est pas mon point dans la figure que j'aurais envoyé. C'est peut-être plus Gilbert que le pape. Mais là, ce jour-là, il y a eu quelque chose de terrible pour notre pays, pour la démocratie, pour l'humanité tout entière. Que des fous furieux débarquent avec des armes de guerre dans un pays en paix et qui désinguent des caricaturistes et des journalistes, c'est inadmissible, inacceptable. Alors après, que ces caricaturistes aient fait un travail de provocation, c'est gentil, provocation. Je voudrais citer François Cavana, qui est l'un des pères de Charlie Hebdo, de toute cette mouvance Harakiri, et qui disait à des jeunes journalistes: méfie-toi de la censure, évidemment. Et il rajoutait, méfie-toi aussi de sa sœur, l'autocensure. Et il concluait, on les emmerde toutes les deux. Évidemment, c'est François Cavana, c'est pas moi qui parle. Mais vous vous rendez compte? Et là, on a la teneur de la presse française, qui est toute son honneur, c'est-à-dire que on va pas provoquer les gens pour les provoquer. On ne va pas agresser des gens. Il faut pas croire que c'est vrai que les personnes qui ont incendié des lieux de culte chrétiens dans les pays musulmans, n'ont rien compris, ni à la religion, ni à l'information. Et il ferait mieux, peut-être, de s'occuper des exactions qui se passent via Boko Haram, via l'État islamiste, que de s'occuper des caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo, qu'ils n'ont jamais lues. Vous vous rendez compte ? Enfin, on est dans une situation géopolitique qui est inédite. Inédite. On se bat et on torture, on tue, voire, à propos de choses qu'on n'a même pas ni vérifiées, ni connues, ni appréhendées. Enfin, c'est quelque chose de dramatique. Alors, pour revenir au métier de journaliste lui-même, évidemment, on est avant tout des êtres humains. Évidemment, un journaliste français est élevé au biberon des trois valeurs, liberté, égalité, fraternité. Ça n'est pas le cas de tous les journalistes qui s'expriment. Et heureusement qu'il y a cette diversité. Il y a des journalistes de droite, des journalistes de gauche, des journalistes anarchistes, façon Cavana, progressistes ou qui envoient un petit peu le bazooka pacifique et qui ne tuent pas celui-là, vers l'intégrisme, vers l'intransigeance. Mais on est confronté, c'est vrai, à un critère marchand. Ce qui explique, Gilbert, que vous avez vu à la télé en boucle, l'attentat en temps réel, quasiment juste après, puis la traque des frères Kouachi, puis l'attaque à la porte de Vincennes avec ces images incroyables, la manifestation qui a suivi le 11 janvier, etc. etc. Les médias ont utilisé, forcément. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher ça ? Est-ce qu'on peut leur reprocher de faire leur travail d'information ? Et en même temps, c'est vrai qu'il ne fallait pas être à la traîne. Alors je ne cautionne pas ce qu'a fait BFM TV, par exemple, qui a risqué de mettre en danger la vie des otages à la porte de Vincennes, en divulguant des informations. Donc il faut faire très attention, et on marche sur des œufs lorsqu'on fait ce métier. On sait aussi qu'un mot peut être mal interprété, qu'une phrase doit être claire, et en même temps, on doit s'exprimer, on doit faire preuve de subjectivité. Mais cette subjectivité, elle doit être équilibrée, elle doit être réfléchie, surtout pas passionnée, et surtout se méfier de ce terme, la passion, quoi. De faire attention au lyrisme aussi, parce que des gens ne sont pas assez armés pour comprendre le lyrisme, et puis faire attention aux expressions qu'on utilise. Vous savez, quand sur les médias, depuis 20 ans, on entend les habitants du RER pris en otage par une grève à la RATP ou des choses comme ça, est-ce que c'est pas galvauder une expression terrible qu'on a vue véritablement dans sa réalité à la porte de Vincennes, pris en otage ? Donc, il faut qu'on revienne, nous aussi, sur notre propre pratique, nous, journalistes, de se dire attention à ce qu'on véhicule, attention à la manière dont c'est reçu par le public, mais en même temps, il faut pas se voiler la face, il faut dire les choses qui fâchent, c'est notre travail, c'est notre métier, il faut faire avancer les dossiers, les réflexions sur l'actualité, sur la situation politique, sur la laïcité. C'est un mot important, laïcité. Pourquoi on l'a pas collé à après liberté, égalité, fraternité ? Peut-être qu'on va y venir. Peut-être qu'on mettra solidarité aussi, tiens, parce que ça n'y est pas dans ces trois mots. La solidarité, de s'occuper de des autres à côté, de donner à l'autre, ce qui est l'un des préceptes du Christ notamment. Donc, voyez des choses qui sont importantes. Les journalistes sont très au fait de ces choses-là. Mais on est pris aussi par un travers, ça s'appelle l'audimat, ça s'appelle le marché, ça s'appelle, ben, il faut pas être coco en retard, hein. C'est ça qu'on dit dans les rédactions. Donc tu te rends compte, un tel a sorti l'info avant toi, mais où t'étais ? Donc c'est ça qui est terrible et qui nous bouscule, sans parler, évidemment, du quatrième média qui est maintenant sur la place publique, c'est évidemment l'Internet. Qui n'est pas réalisé par des journalistes qui sont respectueux de l'information et des personnes, qui vérifient leurs sources, qui font attention à ce qu'ils écrivent et qui ne blessent pas, qui n'injurient pas les personnes. Au contraire, n'importe qui sur Facebook, par exemple, peut non pas analyser, mais injurier, jurer, juger, tout de suite. On n'analyse pas, on confronte pas, non, on condamne. Ça, c'est pas le rôle du journaliste. C'est pas son rôle.
François, si demain vous êtes nommé directeur de Charlie Hebdo, comment structurez-vous le journal, en sachant que c'est un journal satirique?
C'est du rêve, ça, Marco. C'est du rêve. Ce serait un honneur pour moi, sincèrement. Mais je pense que Rhys est vraiment à sa place, là où il est. Maintenant, il est directeur de la publication. C'est évidemment un journal qui a accompagné ma vie de citoyen, Charlie Hebdo. J'ai l'âge où on a été élevé à lire Harakiri et Charlie Hebdo, et à rire de Charlie Hebdo, parce que c'est le sens de ce journal. C'est pas de dresser les gens les uns contre les autres. Le combat, je l'ai dit le 7 janvier sur notre Facebook, le combat de Charb, T-News, Cabu, Honoré et les autres, hélas, il continue. On a reçu, c'est un cataclysme, je l'ai dit, hein, les journalistes du monde entier d'ailleurs, hein, ont réagi à ce drame terrible. Mais ce combat continue. C'est pas un combat pour blesser les gens. On va pas blesser les gens en caricaturant le prophète. Mais ce prophète-là qui est sur la page de Charlie Hebdo, de Charlie Hebdo des survivants, il est plutôt sympathique. Il est plutôt humain, il pleure, et en plus il dit quelque chose qui est un des préceptes aussi de l'évangile, tout est pardonné. Vous vous rendez compte? Le message d'amour qu'il y a sur cette page, je pardonne la mort de mes copains, c'est ça qu'ils ont écrit, hein, c'est ça qu'ils ont dit. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour nous faire réfléchir, pour avancer, pour nous faire rire aussi, même si on n'est pas d'accord. Les gens qui ont manifesté, les 4 millions de Français qui étaient dans la rue, il y en a qui ne connaissaient pas Charlie Hebdo. Ben maintenant, ils connaissent. Charlie Hebdo est sauvé maintenant, financièrement parlant. Ils étaient en grave crise financière, comme beaucoup de titres de la presse écrite. Hein. Je ne vais pas vous dire le Ravi à Marseille, la Marseillaise dans notre région, Nice Matin, enfin bref. La presse écrite est confrontée à des problèmes marchands, d'existence réelle, financière. Et là, on a un journal qui est sauvé. À quel prix? Sa rédaction a été décapitée. Son histoire a été complètement chamboulée. Quand on enlève un Cabu, un Volinsky, ça y est, il n'y a plus Charlie Hebdo. C'est autre chose qui arrive. Le Charlie des survivants.
Est-ce que vous pensez que Charlie Hebdo, dans sa première page, il devrait quand même continuer à garder journal irresponsable?
Marco, je suis journaliste et je respecte mes confrères. Ils ont fait le choix éditorial qu'ils ont choisi. Je peux pas dire plus. Je peux dire à titre personnel que je trouve qu'ils ont raison. Mais je le dis à titre personnel. Je n'irai jamais m'immiscer dans une rédaction. Toutes les rédactions de France ont repris « Je suis Charlie ». Hein. Toutes les rédactions de France sont Charlie. Nous-mêmes, ici, à Fréquence Mistral, on a beaucoup parlé là-dessus. Et on a exprimé des choses par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. On a vu des gens dans la rue qui étaient très différents, très très différents, et qui avaient des choses à faire passer. La presse satirique, la presse irrévérencieuse, on en a besoin en France. On a besoin de cette presse, ne serait-ce que pour nous bousculer, nous, journalistes, dans notre quotidien. Et puis après, je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités. Je respecte leur indépendance et leur choix. Je me suis abonné à Charlie Hebdo, voilà, comme beaucoup d'autres en France. Je me suis abonné aussi au Ravi depuis un certain temps. Mais on a besoin de cette presse satirique, cette presse pas pareille, comme l'on dit.
Merci François. Là, on prend une petite pause en musique. Merci Camille.
Oui, un titre très à propos. Je vous demande de prêter attention aux paroles. Esquelina qui nous chante « Désordre ».
Quand ils tiennent les ficelles de l'enfer et du ciel, qu'ils tirent la barbe du bon Dieu et nous le diable par la queue, la version officielle les appelle l'ordre religieux. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Quand ils
ils imposent leur foi, quand ils imposent leur loi, qu'ils déclarent des guerres et inventent des frontières. La version officielle les appelle l'ordre militaire. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Viennent les destructions et les reconstructions. Les rapaces rappliquent autour du grand pique-nique. La version officielle les appelle l'ordre économique. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et si l'on proteste, et si l'on manifeste, au nom de la République, on reçoit des coups de trique. La version officielle les appelle l'ordre public. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Et pourtant, bien souvent, leurs désirs sont des désordres. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on ferme nos gueules. Le règne de leur dynastie se moque bien de notre avis. La version officielle les appelle l'ordre établi. Évidemment, bien souvent, nos désirs font des ordres. Évidemment, bien souvent, nos désirs font des ordres.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah.